Bienvenue dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Un architecte ou un designer, une marque que vous aimez ou que vous allez découvrir, un entrepreneur, un créatif ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco et envers du décor. Rencontres, savoir-faire, actu, tendances, conseils, ici, la déco, ça s'écoute. Bon allez, si quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Les sujets autour des couleurs et de la peinture plaisent toujours énormément. Il devenait donc urgent de rencontrer l'une des plus belles marques qui puisse exister, Farrow & Ball. Bien plus qu'une marque de peinture et papier peint, Farrow & Ball, c'est le Graal. La garantie de couleurs intemporelles et profondes qui sauront jouer avec la lumière, des finitions qui ont fait son succès et assurent un toucher inimitable, une fabrication artisanale et visionnaire depuis plus de 75 ans, des pratiques durables et de grande qualité, et bien sûr, tout un domaine d'expertise autour de la couleur. C'est d'ailleurs Éric Martel, expert couleur et responsable commercial depuis 12 ans chez Farrow & Ball, qui va répondre à mes questions, qui, comme vous pouvez l'imaginer, vont être très nombreuses. Bonjour Éric.
Bonjour Hortense.
Alors Farrow & Ball est l'une, je disais quand même, des plus belles marques de peinture et papier peint. Est-ce que vous sauriez me dire juste en quelques mots comme ça, sur quoi repose son succès ?
Alors d'abord, c'est une des plus anciennes maisons anglaises et c'est l'union de deux chimistes, John Farrow et Richard Ball, qui après-guerre, Seconde Guerre mondiale, se sont unis, associés donc leurs talents pour créer des peintures extrêmement résistantes. C'était révolutionnaire à l'époque, mais c'est surtout dans les années 90 où finalement l'arrivée de Tom Helm sur un plan création, puisque c'est l'architecte des monuments historiques en Angleterre, et Martin Edson, un financier d'entreprise, qui ont finalement proposé le concept qui est toujours d'actualité, donc de la maison Farrow & Ball. À la suite de quoi on a ouvert, pour asseoir justement la marque, en 96, un premier showroom à Londres, et dans la foulée en 99, donc notre premier showroom, le navire amiral, donc en France, à Paris. D'autres ont suivi depuis.
Ah, vous proposez des produits uniques, on reconnaît les peintures Farrow & Ball à l'œil nu. Qu'est-ce qu'elle a de plus ? En quoi elle est singulière ?
Alors d'abord parce qu'il y a un choix de matières premières, je dirais de haute qualité, et puis après tout tient dans la formulation. Là j'ai envie de parler effectivement de fabriquer une peinture, on l'utilise tous mais on sait pas vraiment comment ça fonctionne finalement. Et donc de ce fait-là, c'est l'association de différentes matières premières, oui, qui avec justement une qualité de pigment importante, dosée en fonction des finitions, qui fait la qualité exceptionnelle de la maison.
En quoi vous avez su, enfin ils ont su à l'époque se différencier des autres ?
Par la résistance, c'est-à-dire que à la base, la peinture finalement dite de qualité devait à la fois être extrêmement solide et sentir très odorante. Bon, odorante, c'était surtout très toxique. Et finalement, là, on est complètement passé en 2010 en des formulations en phase aqueuse, donc à l'eau, éco-friendly. Donc, on est vraiment soucieux de l'environnement, de la qualité de nos peintures. Donc de ce fait-là, on a toujours innové, on a toujours poussé la recherche pour garantir finalement ces résistances, garantir aussi la couleur de nos teintes en respectant l'environnement. On pousse même le challenge à ce que ce soit la peinture en elle-même comme son contenant la plus écologique et que le tout soit recyclable à 100%, ce qui est assez exceptionnel encore aujourd'hui.
Et elles sont fabriquées où, les peintures ?
Alors, tout est fabriqué en Angleterre. Ça, également, je pense que c'est notre force, c'est d'avoir toujours tout concentré pour avoir un meilleur contrôle. C'est-à-dire, les matières premières sont sourcées, pas seulement en Angleterre, bien sûr, mais en attendant, sont réceptionnées, sont vérifiées, sont suivies, sont dosées, sont assemblées. et également exportée depuis l'Angleterre.
Il y a combien de couleurs aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, nous avons à la palette principale, enfin le nuancier existant, 132 teintes, mais finalement ce nuancier évolue. Alors il n'y a pas de date précise, hein. Voilà, c'est finalement non pas seulement les envies, mais la vie qui fait les tendances que l'on dont on peut s'imprégner, enfin les besoins qui font que ce fameux nuancier évolue. Mais ce qui fait qu'en tout, on est à plus de 240 couleurs au jour d'aujourd'hui, si on compte nos teintes archivées. Alors ça, ce sont les couleurs propres à Faro & Ball. Et puis, on nous propose également parfois une participation, enfin une collaboration, notamment avec le Musée d'Histoire Naturelle de Londres, qui a souhaité que l'on crée justement une gamme de couleurs issues de la nature. Collection capsule qui est composée donc de 16 teintes, qui à la fois sont une collection à part entière, mais qui ont l'avantage de pouvoir s'associer au nuancier principal. Faro & Ball.
Ouais. Mais alors, vous parliez de nouvelles couleurs. Est-ce que vous créez souvent des nouvelles couleurs ? Est-ce que vous êtes sans cesse en train d'innover ? Ou comme vous avez des bestes, vous avez plutôt tendance à capitaliser dessus ?
Alors, on ne vit pas sur nos acquis. C'est ce qui fait que l'on est toujours là après plus de 75 ans. Ça s'établit sur deux voies. Enfin, non pas parallèles, mais elles se retrouvent. C'est qu'à la fois, on a une directrice artistique qui pressent, qui voyage beaucoup, qui est accompagnée, donc qui s'appelle Charlotte Cosby, qui est accompagnée de Joa Studholme, qui est une experte couleur en Angleterre depuis une vingtaine d'années maintenant. Elle travaille comme ça, très artisanale, mais en attendant, elle sorte les teintes assez exceptionnelles, qui se veulent actuelles, mais qui restent et qui sont intemporelles. Et d'un autre côté, vous avez Gareth Effield qui finalement dirige le laboratoire, donc la partie chimie, puisque l'un va avec l'autre. L'idée chez Faro & Ball, c'est que l'on propose donc une gamme de couleurs, mais qui puisse être déclinée dans l'ensemble de la gamme de finitions.
Oui, mais alors comment naît une peinture ? Ça naît une envie, un besoin ? Vous dites, il nous manque telle ou telle couleur ? Ou c'est par rapport à une tendance ? Comment elle travaille justement en termes d'inspiration ?
Alors, il y a plusieurs axes. Déjà, de peut-être réactualiser des teintes existantes. On a sorti là, l'année dernière, une teinte qui s'appelle Jitney, qui est un ton de sable, qui vient réactualiser donc la teinte Elephant Dress, qui est une teinte iconique chez Faro & Ball, qui a une tendance peut-être un petit peu plus grisée. Ce qui fait que là, on est dans des couleurs peut-être plus naturelles, plus terre. Et également, pour combler finalement des manques, entre teintes notamment. On a notamment dans des verts très mousses, plutôt foncés. On avait par ailleurs un ton olive, qui était beaucoup plus clair dans la même lignée. Et on a justement proposé le ton Bancha, qui vient en intercalaire entre les deux. L'idée aussi, c'est de pouvoir, chez Faro & Ball, choisir, piocher dans le nuancier, mais avoir des degrés de tonalités, des neutres, des tons un peu plus soutenus, davantage encore, jusqu'aux plus saturés, autrement dit les plus foncés.
Et je crois aussi que le nom est très important, le nom des peintures chez vous.
Oui, parce qu'effectivement, ça c'est toujours le petit clin d'œil. C'est peut-être anglais aussi, mais Charlotte Cosby a besoin toujours de s'appuyer sur une histoire de la teinte. Alors souvent sur des faits réels, hein. Ça peut être sur un plan animal, végétal, par exemple, enfin l'aspect naturel. Et ça permet justement aussi de faire voyager le client quand il utilise la teinte. On est quelque part transporté aussi par la couleur.
Et il faut combien de temps entre l'inspiration, l'idée et la mise en vente ?
Alors c'est un peu comme en musique, si vous me permettez le parallèle, à savoir que l'idée, l'envie peut être immédiate d'un coup de claquement de doigts,
ouais.
Mais c'est après la réalisation qui peut prendre des semaines, voire des mois. Ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment quantifier dans le temps. Bien, en règle générale, nos couleurs entre 2 et 3 ans, ça peut être plus tôt, ou comme je vous le disais précédemment, des nouveautés liées à des collaborations qui nous sont proposées, offertes, Mais c'est plutôt le travail de préparation qui est le plus long.
Le plus long, oui. Et alors, chaque teinte est disponible dans plusieurs finitions. Qu'est-ce qu'une finition? Qu'est-ce que ça apporte?
Alors, c'est l'essentiel. C'est-à-dire que vous choisissez, d'abord, vous choisissez finalement une teinte dans la gamme qui vous accroche. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que l'on a établi dans un cadre 132 teintes parce qu'on considère déjà là une foule de possibilités possibles dans les associations. Après, c'est pas le tout de choisir une couleur. C'est que la finition, finalement, c'est d'avoir la peinture qui sera adaptée au support à peindre. Et vous ne peignez pas avec une même qualité de peinture un mur, un plafond, donc des plâtres en règle générale, qu'un bois comme les portes, les plinthes, voire un radiateur en métal.
Donc pourquoi? Donc qu'est-ce que ça apporte? Par exemple, quelle est la différence si on prend vos deux grandes finitions, la finition mate et satinée, qu'est-ce qu'elles apportent l'une et l'autre?
Satinée déjà, plus une peinture est satinée, plus elle sera résistante au choc. Donc là aussi, il y a d'abord la création avec le choix de la couleur, et puis la partie chimique, même si on considère qu'on a une qualité extrêmement respectueuse de l'environnement, très écologique, mais on va adapter justement par des additifs, justement, et un dosage savant de la résine pour qu'il puisse avoir suffisamment de résistance dans le temps, la tenue, y compris mécanique, que la couleur. Donc ça, c'est primordial. Après, je dirais, c'est les besoins, c'est la vie du quotidien, où finalement, là, on avait une qualité phare, l'emblème Faro & Ball avec l'esthète émulsion, mais on a vu au fil des années, en France et ailleurs, donc le dépassement, enfin la pénétration donc de la nouvelle qualité mate qui s'appelle moderne émulsion, émulsion moderne donc en français, qui finalement propose une qualité mate, parce qu'on reste quand même avec ce choix de teinte mate profonde justement, mais offre aussi une lavabilité qui facilite la vie au quotidien.
Et on vient beaucoup chez vous justement pour cette finition. Qu'est-ce qu'elle apporte en fait?
Mais justement un confort de vie, c'est-à-dire
alors
que,
en quoi un confort de vie, c'est-à-dire un confort au regard ou même pour le quotidien, vous dites on peut la nettoyer plus
oui,
facilement.
Oui, voilà, c'est-à-dire que on va vite maintenant, on est presque nomade dans certains cas, on ne veut pas s'embêter à justement être on veut vivre le plus naturellement possible, ne pas faire attention s'il y a des enfants, des animaux, voilà les traces de salissure. Bon, la moderne émulsion, justement, paraît pour les murs et plafonds intérieurs. Il est certain qu'après, vous avez les peintures qui sont plutôt destinées à l'intérieur et également à l'extérieur. On a tendance à l'oublier, mais on propose chez Faro & Ball, en tout cas, la possibilité de peindre tous les supports intérieurs comme extérieurs.
Et vous parlez beaucoup de profondeur aussi, c'est-à-dire quoi une couleur profonde?
Mais là, comme je le disais, tout est lié, c'est-à-dire qu'on va savamment associer des pigments entre eux qui vont associer justement la formulation de la base de la peinture, donner du relief finalement. Et plus la peinture est foncée, plus on a envie d'y plonger, plus finalement elle vibre avec la lumière naturelle comme électrique.
Oui, le rapport peinture-lumière est très important chez vous. À quoi vous êtes attentif, en fait? Ou à quoi nous, on doit être attentif?
Alors, déjà d'entrée, vous venez nous visiter dans nos showrooms comme chez nos revendeurs. C'est une des premières questions que l'on va vous poser. Comment vivez-vous? Dans quel environnement? Est-ce que c'est un environnement urbain ou au contraire, campagne? La lumière, l'orientation de la pièce sont des facteurs extrêmement importants. La réaction, finalement, de la lumière sur la peinture vous donnera une sensation différente. Donc, on va s'atteler, justement, à cela. Et l'idée majeure aussi chez Faro & Ball, c'est que toutes les couleurs peuvent être appliquées, je dirais, dans n'importe quelle circonstance. L'idée, c'est qu'elles, finalement, procurent toujours un bien-être. La lumière électrique, notamment, est extrêmement importante aussi. la lumière électrique la plus flatteuse et finalement c'est l'ampoule tungstène qui se rapproche finalement de la lumière du jour, enfin cet aspect très chaleureux de la lumière. En revanche, vous éclairez chez vous avec une source de lumière halogène, là c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'il faudra en tenir compte, mais par principe, ça écrase les couleurs, ça les blanchit. La lumière fluo, les tubes fluorescents ont tendance à bleuir. Donc, au vu de ça, on va plus facilement s'orienter sur telle ou telle teinte parce que on a des variantes. Ce qui est intéressant chez Farwenbowl, c'est qu'on a 6 familles de neutres. C'est quelque part une base de travail.
Qu'est-ce que vous appelez un neutre alors ?
Un neutre, c'est pas forcément un blanc. Il y a le blanc, mais qui est rattaché justement à des tons, de blanc teinté, et qui peuvent proposer effectivement une teinte à part entière. Et il est plus simple de se retrouver, de choisir justement une de ces familles-là et d'ajouter ce qu'on appelle les teintes d'accent pour personnaliser davantage votre intérieur. Mais dans les teintes dites neutres, vous avez des nuances plutôt vertes, vous avez des nuances plutôt bleutées, vous avez des nuances plutôt, violacées, jaunes, et de ce fait-là, beaucoup mieux adaptées finalement à votre propre environnement.
Alors en plus de la lumière, sur quels critères aussi sont importants quand on choisit une couleur ?
Ben, le lieu. C'est-à-dire, est-ce que vous vivez en appartement ? Est-ce que c'est dans une maison ? Quel vis-à-vis vous avez ? Un jardin, notamment pour ne pas être antinomique avec les verts notamment choisis. L'architecture de la pièce. Est-ce que c'est une petite pièce ? Est-ce que c'est baigné de lumière ? Est-ce que c'est une pièce aveugle ? Sont des critères primordiaux, finalement, pour pouvoir être dans la sélection, la meilleure sélection possible.
Alors, par exemple, si j'ai une petite pièce, vers quel type de couleur il faut se tourner ?
Alors, une petite pièce, et j'ajouterais même qu'il puisse être aveugle, c'est-à-dire un corridor, un couloir qui dessert les pièces principales, on a tendance toujours à vouloir appliquer une couleur claire pour ne pas dire du blanc. Non pas que je veuille bannir le blanc, c'est que c'est une idée reçue. Et que finalement, ça reste une pièce de passage. Donc finalement, vous pouvez vous faire plaisir et faire ressortir un sol, un parquet ou un carreau de ciment avec une teinte très soutenue. Pourquoi pas faire même une boîte en peignant à l'identique le plafond. Si c'est le cas, les portes que vous allez ouvrir par la suite, les pièces paraîtront aussi beaucoup plus vastes, beaucoup plus lumineuses encore. Après, là encore une fois, les petites pièces, on se dit « Oh là là, si je mets du foncé, ça va la rapetisser ». C'est encore une idée reçue. Au contraire, ça personnalisera justement la pièce. C'est pas du systématique. Il faut avant toute chose que la sélection couleur vous corresponde. On n'achète pas effectivement une ambiance de magazine. On va étudier, surtout on va apprendre à se connaître également. Ça, c'est primordial. Et là, on a des conseillers pour ça. Et je dirais la gamme est suffisamment vaste pour faire son choix.
Vous parlez de magazines, justement. Est-ce que vous avez repéré des nouvelles tendances en couleurs ?
Alors, il faut savoir que depuis là déjà une bonne année, voire 2 ans, on reste dans les teintes dites naturelles. C'est-à-dire qu'on a besoin de chlorophylle. C'est vrai que la vie est surtout en milieu urbain, on a besoin justement de sentir la nature. Donc les verts, les bleus restent incontestablement des bestes. Mais on voit pointer finalement un peu plus des teintes de terre naturelles, des teintes qui finalement s'apparentent à des teintes de champignons par exemple. Mmh. Mais les mousses, tout ça associé, vont donner finalement une ambiance nature. On va laisser un petit peu plus de côté justement les ambiances, alors les blancs, mais les teintes grisées qui resteraient peut-être un petit peu plus froides. Là, on a besoin à la fois de naturel, de fraîcheur, d'oxygène.
Vous parliez de se sentir bien chez soi. Quelle couleur vous conseilleriez justement dans cette période qui peut être un peu plus difficile ? On travaille beaucoup à la maison. Quelles sont les couleurs entre même un bon compromis entre motivation et douceur ?
C'est-à-dire qu'on est tous attirés par des teintes plus que d'autres. On est souvent réfractaire, peut-être lié à l'éducation, à la vie. Enfin, certains ne se sentent bien que dans des couleurs dites froides, ou d'autres dans des couleurs chaudes. Aussi, tout dépend du lieu dans lequel vous vivez. Je parle pas le lieu en lui-même, mais la région. Donc, il est certain que des couleurs seront plus acceptées, seront plus naturelles dans le sud, notamment de la France, que dans le nord.
Mais est-ce qu'il y a des couleurs qui font du bien dans l'absolu ?
Alors, les jaunes, les oranges sont plutôt très dynamiques, mettent de bonne humeur. Donc, on peut imaginer, justement, vous vous levez le matin dans une pièce de vie ou une cuisine, ce sera effectivement très, très dynamique. Au contraire, dans une chambre, on va plutôt favoriser des teintes comme des verts et des bleus qui apaisent. Ça n'est pas une règle absolue. On peut mettre toutes les teintes là où on le souhaite. C'est vraiment un parti pris et c'est ce dont on a envie.
Et à l'inverse, quelles couleurs sont trop négligées à vos yeux alors qu'elles sont intéressantes ?
Je pense que si on considère une négligence, c'est plus dans le non-choix. C'est que bien souvent, la clientèle aurait tendance à ne pas oser la couleur.
Et pourquoi on n'ose pas et comment oser ?
Motivez-nous. Il faut se lancer. C'est-à-dire que on entend souvent en showroom, j'adore cette couleur, on vient, on est attiré, on regarde le nuancier, on regarde les planchettes, on se dit j'adore ça, mais c'est pas pour moi. Pourquoi ça ne serait pas pour vous ? Je dirais, si vous êtes attiré, c'est qu'à la base, vous en avez envie. Après, c'est comment l'utiliser, dans quel dosage aussi, dans quelle proportion, avec quelle combinaison de couleurs. Mais assurément, dès lors où vous avez commencé à goûter aux teintes, vous ne vous en passez plus. Donc, ce que l'on peut faire également pour essayer de casser cette crainte, c'est de démarrer gentiment. Savoir que vous pouvez avoir un lieu de vie plutôt dans des tons neutres et puis vous amuser dans un couloir, dans des toilettes, qui reste un lieu intime. Et pourquoi pas utiliser un noir off-black ou Rayleigh's ou éventuellement une teinte chaude et forte comme l'India Yellow, qui est un jaune safran assez spectaculaire. Et puis petit à petit, je pense que vous viendrez justement à d'autres teintes dans d'autres pièces.
Alors, sans faire trop cliché, parce qu'on a chacun nos goûts, vous, quelle couleur vous préconisez, par exemple, pour un salon ? Toujours de s'écouter, d'oser ?
Non, oui, de s'écouter avant toute chose. Là aussi, on va considérer la pièce en elle-même, sa décoration. Est-ce que l'on a envie, justement, de mettre en valeur un canapé, par exemple, ou de rendre un petit peu plus intime cet aspect, justement, salon ? Par rapport à d'autres pièces. Je dirais, si on a envie d'avoir quelque chose de chaleureux, au contraire, confiné, voire boudoir, on parlait des teintes sombres comme les noirs ou les verts foncés, mais on peut imaginer également des rouges, pourquoi pas. Tout est possible, tout dépend effectivement de la manière dans laquelle vous vivez, dans quel type de mobilier vous vivez. Si vous avez des pièces, on peut imaginer des tableaux, des œuvres d'art à mettre en avant. Là, une chose que vous avez pu remarquer, c'est que depuis quelques années, on y a peut-être certainement participé dans différents endroits, mais même les musées se sont mis à la couleur, ce qui n'était pas. On avait tendance justement à aller dans des pièces aseptisées, avec les œuvres d'art présentées, mais qui quelque part ne mettaient pas plus en valeur que ça la peinture, par exemple. Ouais.
Et dans un bureau, parce que là, on travaille beaucoup de chez soi, alors il y en a beaucoup qui se sont créés une petite pièce bureau ou qui se sont aménagés un petit coin bureau. De quelle couleur il faudrait s'entourer ?
Vous me posez des questions difficiles, délicates. C'est-à-dire que là, encore une fois, tout dépend de la manière dont vous travaillez. Est-ce que vous avez besoin de réflexion, de laisser libre cours à votre imaginaire et auquel cas, on va dire, des teintes plutôt bleutées seraient plus favorables à l'esprit ou au contraire, souhaiter un petit peu plus de dynamique ou carrément une neutralité pour ne pas être perturbé finalement dans votre sens créatif, c'est un peu au cas par cas.
Oui. Alors du coup, côté astuce, peut-être que je peux vous demander plutôt en termes de... Vous parliez tout à l'heure de l'application qui était importante. Est-ce que on est plutôt... Il faut le faire soi-même quand on achète une peinture chez vous. Il faut plutôt faire appel à un pro. Quels sont les bons tips?
Alors déjà, le temps a passé. Mais on a d'entrée des peintures faciles à l'application. Déjà, à la base, c'est quand même important de le souligner. C'est vrai que depuis l'apparition des peintures dites acryliques, c'est beaucoup plus simple. En revanche, un travail préparatoire est primordial. Nos peintres applicateurs professionnels le savent, c'est leur cœur de métier et vous le diront sans aucun problème. Vous pouvez avoir la meilleure peinture, si elle est appliquée d'une manière anarchique sur un support mal préparé, le résultat sera piètre.
Alors c'est quoi bien préparer un support?
Bien préparé, alors ça peut paraître tout à fait scolaire, mais déjà on va regarder, si on parle d'un mur, dans quel état est le mur. Donc première chose, on prend une éponge, de l'eau et une lessive et on récure. On va rincer, on va laisser sécher. On va après, s'il y a des imperfections, des fissures ou autres, on va les réparer. Là aussi, un petit peu de temps. Et on va passer une couche d'impression et sous-couche. À la fois pour garantir l'adhérence et la tenue dans le temps de la peinture. Et puis, parfaire justement à la teinte de finition. C'est l'association des deux chez Farrow & Ball. Hein. Ça permet... à la fois le primaire d'accrochage et en même temps la sous-couche teintée. Et puis on laisse reposer, théoriquement dans un environnement à 18 degrés, 20 degrés, on peut attendre 4 à 6 heures généralement. Moi je préconise toujours de passer une première couche de peinture de finition le lendemain. Après tout, il faut prendre un peu le temps, ne pas jouer dans la précipitation puisqu'après vous en aurez pour des années. Donc une couche d'impression et sous-couche, deux couches de peinture de finition. Et là, vous aurez le rendu optimal de la teinte.
En termes d'outils, est-ce qu'il faut privilégier, on voit beaucoup de rouleaux, le pinceau, le rouleau, autre chose?
Tout à fait. En France, on roule la peinture, beaucoup. Ce qui n'est pas le cas outre-Atlantique ou outre-Manche. En France, on roule. Donc, première chose, effectivement, c'est comme n'importe quel, ouvrier, c'est d'avoir la peinture de qualité, certes, mais aussi le bon outillage. Donc, on va choisir donc un rouleau de type rouleau microfibre. Donc, pour toute la partie mur, plafond, rouleau microfibre 10 mm. Pour toutes les peintures acryliques. Après, les peintures dites alkyd, donc ça paraît un peu technique comme ça, mais pour simplifier, les peintures plutôt destinées aux boiseries intérieures comme au métal, les radiateurs, les tuyauteries, on va opter pour un rouleau microfibre 5 mm, voire le rouleau laqueur éventuellement. Parce que on a des teintes, des qualités qui sont extrêmement couvrantes. On a un rendement quand même très important, de l'ordre de 14-15 mètres carrés au litre. Sur le marché, c'est très important. Voilà.
Alors, les peintures Farrow & Ball, elles flattent l'œil évidemment, mais le toucher aussi, comment c'est possible?
C'est-à-dire qu'on a dans la formulation des matières de charge. Alors ça peut paraître là encore une fois un peu technique. En règle générale, on trouve plutôt du carbonate de calcium, c'est-à-dire de la craie, qui au microscope forme des petites billes, un grain plus ou moins épais. Chez Farrow & Ball, on utilise en matière de charge essentiellement donc des argiles, le kaolin. Donc c'est une matière qui est utilisée également dans la fabrication de la porcelaine, donc extrêmement fine. Ce qui fait que une fois appliquée, les peintures sont extrêmement douces au toucher.
Et on peut crayonner dessus, elles sont adaptées aux enfants, vous dites?
Alors, c'est pas fait pour ça, mais là, encore une fois, on a des qualités qui sont plus ou moins résistantes. Donc, on va, si vous avez un risque de cet ordre, ou dans des pièces de circulation, les couloirs, par exemple, on va utiliser donc la moderne émulsion, qui est pour les murs et plafonds le plus conseillé. Les pièces d'eau, salle de bain, les cuisines, parfait pour ça. Ça ne craint pas grand-chose. Vous attendez cependant que la peinture soit sèche à cœur, parce que toute peinture dite lavable l'est, mais à condition qu'elle ait opéré sa polymérisation, c'est-à-dire qu'elle soit vraiment sèche totalement. Donc on va attendre 48, 72 heures avant effectivement de passer une éponge humide, voire une éponge avec de l'eau et un produit savonneux.
On n'a pas parlé du... Il y a aussi le degré de brillance. Je ne sais pas trop comment dire. On parle beaucoup du mat, mais il y a aussi quand même un degré de brillance qu'on peut voir parfois. Est-ce qu'on a encore envie de ça aujourd'hui ou c'est réservé à certaines pièces ou matériaux ?
Non, du tout. C'est vrai que dans les années 70-80, on pensait surtout brillant au plafond, notamment avec les lacs. C'est vrai que il y a eu, on va dire, un oubli ou une mise de côté de ces qualités qui, au fil des années, quand même, sont revenues sur le marché. On voit peut-être davantage la laque brillante chez Farrow & Ball pour un usage donc de porte, intérieur comme extérieur, mais on peut s'amuser justement dans une cage d'escalier à avoir le bas pour une question de protection et en même temps de reflet de la lumière et puis contraster avec un mat profond également. C'est vraiment de jouer dans le style de la pièce, s'amuser avec une seule et même couleur également. Vous avez l'impression d'avoir deux teintes différentes presque.
Ah, vous avez des couleurs qui sont d'ailleurs très intemporelles, qui sont même, j'aurais envie de dire, classiques, sans que ce soit une critique. Vous n'avez jamais eu envie d'aller plus loin, dans les doser davantage ?
Alors, intemporel, je veux bien, parce qu'effectivement, on ne subit pas et on ne veut pas être ancré dans ce qu'on appelle des teintes mode, mais classique non plus. À savoir que c'est l'association qui fait qu'une ambiance est plus ou moins classique. Donc là, chez Farrow & Ball, on a toutes les teintes pour avoir des ambiances plutôt calmes ou au contraire très fortes. Là, notamment, la dernière collaboration avec le musée des tissus à Lyon et l'expo Vivienne Westwood. Donc si vous connaissez donc la créatrice, c'est quand même punk.
Oui,
et finalement,
rock, oui.
Donc un certain choix de couleurs comme Emerald Green, Le Pen Black ou Cook's Blue encore ont été utilisés. Et ça met pour une mise en scène tout à fait détonnante. On a Nathalie Rive, avec qui on a dernièrement collaboré pour la rénovation de l'hôtel de la Tour Rose à Lyon, qui a osé donc le Preference Red avec l'arsenic ou encore le Green Smoke. Donc finalement, la couleur, on en fait ce que l'on veut. On peut rester tout à fait sage ou au contraire être très fort et très punchy.
Ok, je vous écoute depuis tout à l'heure. Et en fait, c'est vrai que la force de Farrow & Ball, c'est aussi l'accompagnement, le service et notamment vous proposez-vous des consultations couleurs. En quoi ça consiste ?
La consultation couleurs est un service que l'on a officialisé depuis déjà quelques années. La nouveauté, c'est qu'avec les conditions sanitaires actuelles, on a une version aussi virtuelle, donc c'est assez pratique. Et c'est là où, avec un certain nombre de questions qui vous seront proposées, donc pour mieux vous connaître, on pourra d'autant mieux vous accompagner. Vos goûts, vos couleurs favorites, la manière dont vous vous habillez, la manière dont vous vivez, le lieu urbain, comme je disais, ou pas. Et au vu de ce que l'on aura regroupé comme information, eh bien, on va vous orienter déjà sur une sélection de teintes. Ça ne veut pas dire que ce soit celle-ci et pas d'autres, mais on va effectivement réduire le champ de couleurs pour obtenir finalement l'association idéale.
Et qui répond à ces questions ?
Nos consultants ou consultantes couleurs qui ont suivi une formation technique et pratique pour justement vous guider dans vos choix.
Alors, vous vendez aussi du papier peint, on n'en a pas encore parlé. Est-ce que c'est depuis toujours ou est-ce que c'est pour venir ? Parce que j'imagine que ça se complète évidemment en termes de teinte avec vos peintures. C'est venu dans un second temps ?
C'est vrai que Farrow & Ball est essentiellement connu encore aujourd'hui pour ses couleurs. Mais la gamme de papier peint est bel et bien existante. Au jour d'aujourd'hui, nous avons plus de 300 références donc au catalogue. Farrow & Ball donc a proposé ses papiers peints depuis 1995. Donc c'est dû, non pas sur le tard, mais en tout cas avec l'arrivée de Tom Helm qui a proposé ça en complément. Il est vrai que l'on est parti de documents d'archives pour finalement s'orienter dans des motifs, on va dire, plus contemporains. La particularité, c'est que l'on utilise nos peintures, notamment notre émulsion mate, pour fabriquer nos papiers peints. C'est un vrai papier peint.
Donc à la place de l'encre, en fait, c'est ça ?
Exactement. Il n'y a pas d'impression offset, ni d'encre. C'est vraiment la peinture protégée. Alors, à la base, la peinture qui a été spécialement formulée pour une application sur papier peint, ce qui fait que ça ne craque pas, mais qui elle-même est protégée par un vernis incolore qui rend le papier peint essuyable. Le papier peint, chez nous, est un papier peint dit traditionnel. Donc, pas d'un tissé, c'est-à-dire qu'on va encoller le lait de papier peint pour l'appliquer donc sur les murs, par exemple. Je noterai également que la pâte à papier est issue donc de forêts gérées. Toujours notre souci donc de respecter l'environnement. Lui aussi est 100% recyclable. Donc ça, c'est important quand même de le savoir. Nos papiers peints sont fabriqués selon trois méthodes également, par nécessité tout simplement. Soit la méthode au réservoir, vous versez la peinture dans un réservoir, des petites mousses qui permettent justement d'appliquer sur le papier. C'est souvent destiné aux unis faux unis, les rayures notamment, qui sont fabriquées de la sorte. On a également l'impression au rouleau pour certains motifs, le plus spectaculaire étant le papier peint donc au tampon type dominotier pour les plus grands motifs. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. On retrouve ce type de fabrication notamment pour le papier peint numéro 1 actuellement, qui est notre motif Lotus, qui est très plébiscité.
Donc c'est très artisanal. Comme depuis les débuts.
Exactement. Tout ce métier est artisanal. C'est d'ailleurs le plus joli à voir. Si vous aviez l'opportunité de visiter donc l'usine effectivement de fabrication, et les papiers peints finalement restent fabriqués à la commande. Donc vous commandez à partir de un rouleau, mais vous en commandez 10. Les rouleaux sont numérotés également pour avoir le parfait rendu.
Donc, de ce que je comprends, vous êtes dans toute une démarche responsable pour les papiers peints, pour la peinture, on en a parlé aussi tout à l'heure. Donc, Farrow & Ball se positionne comme une marque éco-responsable ?
Absolument, tant pour nos papiers peints que pour nos peintures. Voilà une dizaine d'années où nous avons renforcé davantage cet aspect-là. C'est vrai que les mesures européennes proposées nous ont obligés. On a vraiment été précurseurs en ce sens, et ça se traduit au quotidien. C'est-à-dire tout est fait pour minimiser finalement notre impact environnemental. Le recyclage de nos pots, minorer les cartons, recycler la peinture, l'eau utilisée. Ce qui fait que l'on a obtenu depuis quelques années donc une certification Toy Safety qui garantit justement l'usage des plus petits.
Mais combien de personnes travaillent chez Farrow & Ball ? C'est une grosse...
C'est une grosse petite société, c'est-à-dire on a surtout beaucoup d'ambition, mais on est à travers le monde autour de 600 personnes, dont 300-350 au siège.
Et c'est quel type de métier, en fait ?
Alors, vous avez tous les métiers, finalement. Donc, puisqu'il y a la partie fabrication, la partie scientifique, la partie vente, donc avec les équipes showroom, la partie communication. Tout est géré, finalement, en interne, ce qui nous permet de mieux suivre, en tout cas de mieux maîtriser, à la fois l'image et la qualité.
Et vous, alors, quel est votre rôle, quel est votre métier chez Farrow & Ball ? Je l'ai dit tout à l'heure, un peu, vous êtes expert couleur ?
Alors, je suis avant tout responsable commercial, où je m'occupe du développement donc par Île-de-France et l'Est. Donc, un métier passionnant, donc toujours au contact avec nos revendeurs. Et puis, on me confie régulièrement donc le rôle pour animer des présentations, des talks pour la marque.
D'accord.
En quelque sorte ambassadeur.
Oui. Ce pourquoi vous répondez à mes questions aujourd'hui.
Absolument, et avec grand plaisir.
Quelle est votre couleur, juste pour terminer, vous, quelle est votre couleur préférée chez Farrow & Ball ou dans l'absolu ?
actuellement une Chira Blue, mais j'ai un faible pour India Yellow.
Qui ressemble à, du coup, comme on peut pas voir, comment vous la décrivez?
Alors, une Chira Blue est un bleu tonalité d'orage. Ça peut être changeant, là encore une fois, des tons d'ardoise. L'India Yellow est un jaune safran puissant.
Merci beaucoup, Eric.
Merci, Hortense.
Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, c'est juste sous la liste des épisodes. Les 5 étoiles me font toujours très plaisir et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.